Monsieur Murger, nous vous remercions de nous recevoir ici à Paris. Vous publiez bientôt un roman avec le titre « Scènes de la vie de la Bohème ». Vous reprenez le titre de votre pièce de théâtre, parue l'an dernier et qui a connu un grand succès. De quel bohème parlez-vous dans votre livre ? De bon vivant à la charge de la société ou des fainéants ?
Alors, les bohèmes dont il est question dans ce livre n'ont aucun rapport avec les bohèmes dont les dramaturges du boulevard ont fait les synonymes de filou et d'assassin. Ils ne se recrutent pas davantage parmi les montreurs d'ours, les avaleurs de sabres, les marchands de chaînes de sûreté, les professeurs d'à tout le coup on gagne, les négociants des bas-fonds de l'agio et mille autres industriels mystérieux et vagues, dont la principale industrie est de n'en point avoir, et qui sont toujours prêts à tout faire, excepté le bien.
Mais en fait, quelle est la bohème que vous représentez dans votre livre ?
La bohème dont il s'agit dans ce livre n'est point une race née d'aujourd'hui. Elle a existé de tout temps et partout, et peut revendiquer d'illustres origines.
Dites, la bohème a connu une longue histoire.
Dans l'Antiquité grecque, sans remonter plus haut dans cette généalogie, exista un bohème célèbre qui, en vivant au hasard du jour le jour, parcourait les campagnes de l'Ionie florissante en mangeant le pain de l'aumône et s'arrêtait le soir pour suspendre au foyer de l'hospitalité la lyre harmonieuse qui avait chanté les amours d'Hélène et la chute de Troie.
Et votre bohème veut tout savoir, participer à tout ?
À l'époque qui sert de transition entre les temps chevaleresques et l'aurore de la Renaissance, la bohème continue à courir tous les chemins du royaume et déjà un peu les rues de Paris. C'est maître Pierre Gringoire, l'ami des truands et l'ennemi du jeûne, maigre et affamé, comme peut l'être un homme dont l'existence n'est qu'un long carême, il bat le pavé de la ville.
Il y a aussi bien d'autres poètes et artistes.
C'est maître François Villon, l'amant de la belle qui fut Homière, poète et vagabond par excellence, celui-là.
Villon était poète et artiste, aussi un bohémien ?
Ce même Villon, oui, a rimé des élégies dont le sentiment navré et l'accent sincère émeuvent les plus impitoyables et font qu'ils oublient le malandrin, le vagabond et le débauché devant cette muse toute ruisselante de ses propres larmes.
Vous pensez aussi aux grands artistes de la Renaissance, à leur autonomie ?
Mais voici le grand siècle de la Renaissance qui s'ouvre. Michel-Ange gravit les échafauds de la Sixtine et regarde d'un air soucieux le jeune Raphaël qui monte l'escalier du Vatican. Benvenuto médite son percée. Ghiberti cisèle les portes du baptistère en même temps que Donatello dresse ses marbres sur les ponts de l'Arno. Et pendant que la cité des Médicis lutte de chef-d'œuvre avec la ville de Léon X et de Jules II, Titien et Véronèse illustre la cité des Doges. Saint-Marc lutte avec Saint-Pierre.
Parlons de la bohème moderne. Comment devient-on artiste aujourd'hui ?
Aujourd'hui, comme autrefois, tout homme qui entre dans les arts, sans autre moyen d'existence que l'art lui-même, sera forcé de passer par les sentiers de la bohème.
La bohème est donc le seul chemin qui conduit au succès ?
La plupart des contemporains qui étalent les plus beaux blasons de l'art ont été des bohémiens, et dans leur gloire calme et prospère, ils se rappellent souvent, en le regrettant peut-être, le temps où, gravissant la verte colline de la jeunesse, ils n'avaient d'autre fortune, au soleil de leurs 20 ans, que le courage, qui est la vertu des jeunes, et que l'espérance, qui est le million des pauvres.
On pourrait penser que c'est une vue pessimiste. Or, la bohème est pour vous aussi une sorte de passage.
Pour le lecteur inquiet, pour le bourgeois timoré, pour tous ceux qui ne trouvent jamais trop de points sur les i d'une définition, nous répéterons en forme d'axiome, la bohème, c'est le stage de la vie artistique. C'est la préface de l'académie, de l'hôtel Dieu ou de la morgue.
Et où trouve-t-on la bohème dont vous parlez ?
Nous ajouterons que la bohème n'existe et n'est possible qu'à Paris, bien sûr.
Il y a une classification de la bohème.
Comme tout état social, la bohème comporte des nuances différentes, des genres divers qui se subdivisent eux-mêmes et dont il ne sera pas inutile d'établir la classification.
Vous pouvez préciser ?
Oui, nous commencerons par la bohème ignorée, la plus nombreuse. elle se compose de la grande famille des artistes pauvres, fatalement condamnés à la loi de l'incognito parce qu'ils ne savent pas ou ne peuvent pas trouver un coin de publicité pour attester leur existence dans l'art, et parce qu'ils sont déjà prouvés ce qu'ils pourraient être un jour. Ceux-là, c'est la race des obstinés, rêveurs pour qui l'art est demeuré une foi et non un métier. Gens enthousiastes, convaincus, à qui la vue d'un chef-d'œuvre suffit pour donner la fièvre, et dont le cœur loyal bat hautement devant tout ce qui est beau, sans demander le nom du maître et de l'école.
Et d'où vient cette bohème ?
Cette bohème-là se recrute parmi ces jeunes gens, dont on dit qu'ils donnent des espérances, et parmi ceux qui réalisent les espérances données, mais qui, par insouciance, par timidité ou par ignorance de la vie pratique, s'imaginent que tout est dit quand l'œuvre est terminée, et attendent que l'admiration publique et la fortune entrent chez eux par escalade et avec effraction. Ils vivent, pour ainsi dire, en marge de la société, dans l'isolement et dans l'inertie.
Cette bohème n'a pas beaucoup de chance. Elle ne rencontre aucun bonheur.
Ce sont ces prédications dangereuses, ces inutiles exaltations posthumes qui ont créé la race ridicule des incompris, des poètes pleurards, dont la muse a toujours les yeux rouges et les cheveux mal peignés, et toutes les médiocrités impuissantes qui, enfermées sous l'écrou de l'inédit, appellent la muse marâtre et l'art bourreau.
Vous évoquez un axiome, c'est sérieux ?
Axiome, oui, la bohème ignorée n'est pas un chemin, c'est un cul-de-sac.
Il y a une autre bohème que vous appelez les amateurs.
Nous citerons encore une singulière variété de bohèmes qu'on pourrait appeler, effectivement, amateurs. Ceux-là ne sont pas les moins curieux. Ils trouvent la vie de bohème une existence pleine de séduction. Ne pas dîner tous les jours, coucher à la belle étoile, sous les larmes des nuits pluvieuses, et s'habiller de nankin dans le mois de décembre, leur paraît le paradis de la félicité humaine. Et pour s'y introduire, ils désertent, celui-ci le foyer de la famille, celui-là l'étude, conduisant à un résultat certain.
Cette bohème ne compte pas de vrais artistes.
Ils tournent brusquement le dos à un avenir honorable pour aller courir les aventures de l'existence de hasard. Inutile de dire que ces bohémiens-là n'ont d'aucune façon rien de commun avec l'art, et qu'ils sont les plus obscurs parmi les plus inconnus de la bohème ignorée.
Mais après tout, il y a une vraie bohème.
Nous arrivons maintenant à la vraie bohème, à celle qui fait en partie le sujet de ce livre. Ceux qui la composent sont vraiment les appelés de l'art, et ont chance d'être aussi de ses élus. Cette bohème-là est, comme les autres, hérissée de dangers. Deux gouffres la bordent de chaque côté, la misère et le doute. Mais entre ces deux gouffres, il y a du moins un chemin menant à un but que les bohémiens peuvent toucher du regard en attendant qu'ils le touchent du doigt.
Il y a une bohème intellectuelle ?
Les bohèmes savent tout et vont partout, selon qu'ils ont des bottes vernies ou des bottes crevées. On les rencontre un jour accoudés à la cheminée d'un salon du monde, et le lendemain attablés sous les tonnelles des guinguettes d'encende. Ils ne sauraient faire 10 pas sur le boulevard sans rencontrer un ami, et 30 pas n'importe où sans rencontrer un créancier.
Il y a même une langue propre à la bohème.
La bohème parle, entre elles, un langage particulier, emprunté aux causeries de l'atelier, au jargon des coulisses, et aux discussions des bureaux de rédaction. Ce vocabulaire de bohème est l'enfer de la rhétorique et le paradis du néologisme.
On critique la bohème.
Telle est, en résumé, cette vie de bohème, mal connue des puritains du monde, décriée par les puritains de l'art, insultée par toutes les médiocrités craintives et jalouses qui n'ont pas assez de clameurs, de mensonges et de calomnies pour étouffer les voix et les noms de ceux qui arrivent par ce vestibule de la renommée en attelant l'audace à leur talent.
Monsieur Murger, un dernier mot. Vous avez des conseils pour les jeunes artistes ?
Pour arriver à leur but, qui est parfaitement déterminé, tous les chemins sont bons et les bohèmes savent mettre à profit jusqu'aux accidents de la route. Pluie ou poussière, ombre ou soleil, rien n'arrête ces hardis aventuriers dont tous les vices sont doublés d'une vertu. L'esprit toujours tenu en éveil par leur ambition, qui bat la charge devant eux et les pousse à l'assaut de l'avenir, sans relâche, aux prises avec la nécessité, leur invention, qui marche toujours mèche allumée, fait sauter l'obstacle qu'à peine il les gêne.
Merci, monsieur. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.